Hier, Pierre-Yves, Stingray a fait une gigantesque transaction de 506 millions de dollars en faisant notamment l'acquisition de toutes les actions en circulation d'un très gros joueur de l'industrie radiophonique au Canada, Newfoundland Capital. Mais pourtant, Stingray chute en bourse.
Oui, 12 %. C'est parce que les actionnaires trouvent que l'acquisition a été faite soit deux choses. Soit qu'on a acheté une industrie en décroissance, soit qu'on a acheté quelque chose à prix trop élevé. Parce que dans le fond, les actionnaires comparent le 506 millions à ce qu'on s'attend de faire avec les licences de radio, et etc. Donc, on trouve qu'il y a une baisse. La preuve, c'est que Newfoundland Capital a monté en valeur. Donc, on paie une prime pour l'action qui est à 14 et quelques. Il n'est pas encore à 14,75 le prix offert parce qu'il y a encore de l'incertitude. Mais ça démontre à quel point on trouve que Stingray a fait une transaction coûteuse. Et la question est la suivante, c'est Stingray, dans son modèle d'affaires, qu'adviendra-t-il? Par exemple, dans le moment, Stingray t'offre plein de canaux musicaux avec ton abonnement au câble. Comme c'est inclus dans le forfait, les gens se disent c'est gratuit, mais il y a un coût implicite. Alors la question, c'est le jour où les gens ne prendront plus d'abonnement avec les câbles distributeurs, est-ce qu'on va encore aller utiliser la musique de Stingray ou les services de Stingray? Donc c'est un peu ça, là. Il y a beaucoup d'offres chez Stingray diversifiées, mais c'est de montrer comment c'est complexe cette industrie-là, comment le futur n'est pas connu et comment surtout c'est difficile pour les investisseurs de savoir qu'adviendra-t-il des utilisateurs. Parce que Stingray quand même aller viser quelque chose de drôle, c'est un marché de dire... Vous avez beaucoup la musique en ligne, la musique en streaming, la musique sur demande. Nous, on va vous offrir une sélection musicale par thème et on va le faire pour vous. Arrêtez de vous casser le bicycle avec ça. On va vous l'offrir et vous allez écouter ce qu'on vous donne. Et ça fonctionne très bien parce que dans le fond, aujourd'hui, faire des listes, les gens n'ont peut-être pas le temps, on prenne pas le temps et ça répond à un besoin de clientèle.
Alors, c'est notre volet finance personnelle. Comment utiliser son CELI pour moduler ses revenus et son impôt de retraite?
Oui, Paul, parce que dans le moment, on parle de REER. Ça finit par taper ses nerfs au monde. T'as-tu des REER, tu sais? T'as-tu une tarte aux pommes? Non, j'ai des REER. Donc, on parle que de ça. Mais le CELI, Paul, le plafond cumulatif du CELI augmente à chaque année. Tu sais, un 5 500, un 5 000, un 10 000 l'autre année. Donc, au total, on est rendu à 57 500 au total de capacité de CELI en 2018. Au total, sur les années d'avoir contribué. Et là, il y a des gens qui commencent à faire une stratégie en se disant « Écoute, avec les années qui passent, on va pouvoir finir par mettre 100 000 $ dans notre CELI. Mais si on peut mettre ça, ça veut dire que, mettons que j'ai 58 ans, que je veux prendre une pré-retraite, là, au lieu de moduler mes revenus avec le RRQ à 60, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes REER. Et ce dont je n'aurai pas besoin, je vais le transférer dans mon CELI. Mm-hmm. Et l'avantage... T'as un faible taux d'impôt à ce moment-là.
Ben oui.
Et après ça, tu prends ton argent dans ton CELI à ta retraite puis tu paies pas d'impôt.
C'est brillant.
C'est brillant quand même. Donc, il y a des gens qui se disent, je vais prendre une pré-retraite. Un des deux salariés qui se dit, des deux personnes qui retraitent, donc par exemple, un travailleur autonome dit, moi, je vais prendre ma retraite à 50 ans, mais de 50 à 60, je vais retirer des REER très faiblement avec un taux d'impôt faible. Je vais placer ça dans mon CELI et à partir de 60, ça va me faire un revenu complémentaire qui aura pas d'impôt dessus. Et évidemment, ça commence à être logique. Imagine, en 2038, quand les gens qui ont eu 19 ans, ou 18 ans plutôt, en 2009, au début du CELI, vont avoir un certain âge, il y a beaucoup d'argent dans le CELI qui va être à l'abri de l'impôt. Donc, en 2009, c'était comique le 5 000. Mais si on fait le cumulatif, on est en train de bâtir un coussin de sécurité majeur à l'abri de l'impôt qui ne se module pas en fonction des revenus. Et ça va permettre à des retraités qui ont bien joué leur carte, Paul, d'éviter l'impôt sur une bonne partie de leur revenu de placement. Et c'est assez brillant. Le problème, c'est que ça fait encore deux types de personnes. Les gens qui sont des salariés ou des retraités avec une rente qui ne contrôlent pas et les gens qui ont eu des investissements, qui ont mis ça dans leur CELI et qui peuvent moduler des retours ou des retraits sur des placements spéculatifs qui ont fait des hauts rendements et sur lesquels il n'y aura eu aucun impôt, Paul.
Ah, ça, c'est brillant. Les franchisés de Tim Hortons ont contre-attaqué et poursuivent maintenant la chaîne qui détient, non pas la chaîne, mais l'organisation qui détient les Tim Hortons, Restaurant Brands International.
Ouais, rien ne va plus entre le groupe Great White North Franchisee Association, donc c'est le regroupement de franchisés qui s'oppose à Tim Hortons, qui réclame RBA, qui réclame des meilleurs services et qui dit, écoutez là, sont drôles. Dans notre contrat de franchise, ils nous disent que si on veut poursuivre la maison mère, faut qu'on fasse ça des États-Unis. Mais on dit qu'on est devenu une compagnie canadienne quand c'est temps de payer de l'impôt. Donc, on joue aux deux poids, deux mesures, on fait ce qui fait notre affaire, et là, on sort le programme Gagnons Ensemble, on veut rénover 700 millions, c'est les franchisés qui vont investir dans un fonds, et là, on se dit, est-ce que les fonds sont bien utilisés? Est-ce qu'on détourne des fonds? Mais surtout, Paul, on est en train de nuire à l'image de Tim Hortons, là, parce qu'il y a une guerre entre les franchisés et la maison mère. Donc, pour le client, ça met une mauvaise image. Ajoute à ça toute l'offre de fast-food qui existe et l'offre de café, Paul. Il y a beaucoup de petits cafés qui naissent indépendants et qui ne sont pas franchisés et qui attirent une clientèle pour le côté peu de profit, coopérative de travail, des cafés qui offrent une troisième vague, donc des cafés beaucoup plus en détente et moins un service fast-food café. Et McDonald's, pendant ce temps-là, qui du côté fast-food, va te chercher une clientèle monstre en offrant un prix vraiment dérisoire sur le café torréfié. Donc, Tim Hortons est en pression et là, il faut vraiment nettoyer cette guerre publique-là parce que ça peut nuire aux franchisés qui eux-mêmes nuisent à leur propre marque, tu vois.
Merci Pierre-Yves, à demain.